France Culture.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Les partenaires commerciaux des États-Unis guettent avec appréhension les annonces de Donald Trump sur de nouveaux droits de douane. Les entrepreneurs américains eux-mêmes en redoutent les conséquences. Nous ferons un point avec Camille Magnard. Malgré la forte implication d'Elon Musk, c'est une magistrate soutenue par les démocrates qui a été élue juge à la Cour suprême du Wisconsin. Un premier revers électoral pour le clan Trump que nous analyserons avec Sébastien Paour. 5 ans après l'apparition du Covid, ses origines font toujours débat. L'Académie de médecine penche pour l'accident de laboratoire, Tarache Lesquelles nous dira pourquoi. Et puis nous parlerons du lien social qui s'érode au niveau national en France, mais résiste à l'échelon local, comme nous l'expliquera Elisa Savate. Donald Trump lance aujourd'hui sa grande offensive douanière, censée inaugurer le nouvel âge d'or de l'Amérique. Et en attendant l'annonce des mesures concrètes, le monde économique retient son souffle. De nouveaux droits de douane vont donc s'imposer aux pays qui importent aux États-Unis. On attend de savoir s'ils seront plutôt ciblés ou mondiaux et forfaitaires. Quoi qu'il en soit, il faut s'attendre à une réplique des pays concernés, à des mesures similaires sur les importations américaines. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Aurélie.
Vous êtes l'un de nos correspondants aux États-Unis en direct d'Atlanta. Alors, Donald Trump assure qu'au bout du compte, les entreprises américaines seront gagnantes, mais les marchés financiers ne semblent pas vraiment rassurés.
Non, pas vraiment. Les indices boursiers à Wall Street ce matin ont ouvert en baisse. Le cours de l'or, la valeur refuge par excellence, tutoie en même temps des records historiques. Autant de signes interprétés comme des signes d'attente, mais aussi et surtout de fébrilité quant à l'avenir de l'économie américaine. La crainte, bien sûr, c'est que ces barrières douanières à l'entrée et aussi à la sortie du marché américain ne ralentissent à court terme l'activité et donc la croissance économique des États-Unis. On a vu ces derniers jours des actions de petites et moyennes entreprises ici perdre de la valeur en bourse parce qu'elles exportent leur production à l'étranger ou bien parce qu'elles ont besoin de matières premières ou de pièces importées pour fonctionner. Mais tout de même, il faut bien le dire, c'est pas la panique boursière non plus. Les analystes financiers ne semblent pas croire à l'hypothèse d'une véritable récession à venir. Ils espèrent que la Maison-Blanche, en fait, ne mettra pas à exécution ces menaces de droits de douane les plus radicales. Et par contre, on s'inquiète ici d'un probable retour de l'inflation qui devrait gréver la consommation des ménages américains. Mais au fond, les marchés, ils ont surtout hâte de sortir de l'incertitude qui les mine depuis des semaines. Une fois les règles du nouveau jeu commercial précisé tout à l'heure par Donald Trump, les traders, les spéculateurs, les investisseurs américains qui ont largement voté pour le républicain en novembre n'ont pas vraiment de doute sur leur capacité à s'adapter et à tirer profit de cette nouvelle donne protectionniste.
Camille Magnard en direct d'Atlanta. La politique de Donald Trump rompt avec des décennies de libéralisation des échanges. Elle rompt aussi avec les engagements pris par les États-Unis auprès des autres membres de l'Organisation mondiale du commerce. Comment expliquer qu'il soit aussi facile de s'en affranchir? C'est la question posée par Marie Viennot à l'économiste Sébastien Jean, professeur au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers.
On ne peut jamais contraindre un État souverain. Et donc, le succès, l'astuce de l'OMC, ça a été d'arriver à trouver des moyens de rendre ces accords pas formellement contraignants, mais en fait placer les pays dans des conditions où ils sont incités à se conformer à ces accords, alors qu'on ne peut pas les y forcer. Et comment on les incite à se conformer à leurs engagements? En leur disant, si vous ne le faites pas, à ce moment-là, les autres pays ne le feront pas non plus vis-à-vis de vous. Et vous n'allez pas être gagnant. Donc, ça crée une incitation à se conformer aux engagements, sachant qu'on ne peut pas forcer.
Et là, on est passé à la phase où chacun décide de le faire sans l'autorisation de l'OMC, en fait.
Plus exactement, ceux qui violent le plus leurs engagements, ce sont les deux plus grandes puissances, les États-Unis et la Chine. Ce sont ceux qui sont le plus imperméables à la pression des pairs. Alors, la Chine, parce que la nature de leur économie est tellement peu conforme à l'hypothèse d'un fonctionnement libéral qui est sous-jacente aux règles de l'OMC, que c'est un problème. Et les États-Unis, eux, ils violent la lettre même de leurs engagements et ça n'a pas l'air de leur poser problème. Mais si vous regardez la plupart des autres pays, c'est pas le cas. Parce que ils n'ont pas envie que leurs partenaires leur ferment la porte et ils n'ont pas l'impression que seulement par la confrontation, ils arriveront à défendre leurs intérêts.
Les États-Unis n'ont pas versé leur contribution à l'OMC, contribution qui représente plus de 11% du budget de l'organisation. Donald Trump pavoise, mais il vient de subir son premier revers électoral depuis son retour à la Maison-Blanche. Hier, une juge progressiste a été élue dans le Wisconsin. Il s'agissait d'un scrutin local, mais dans lequel le principal allié du président américain, le milliardaire Elon Musk, s'est particulièrement investi, Sébastien Paour.
Nos votes ne sont pas à vendre. Voilà le message des électeurs démocrates de cet État-clé à la frontière canadienne, au président Trump qui soutenait le candidat républicain et à son allié milliardaire Elon Musk à la tête du département chargé de l'efficacité gouvernementale et qui a dépensé plus de 20 millions de dollars dans cette campagne. Deux chèques d'un million, des centaines d'autres de 100 dollars aux électeurs qui signaient sa pétition, d'autres de 20 dollars pour une photo d'électeur pouce levé avec un cliché du candidat républicain. L'homme le plus riche du monde a même tenu meeting sur place dimanche dernier, casquette MAGA sur la tête. Il mettait en garde contre une petite élection qui pourrait déterminer le destin de la civilisation occidentale. Fin de citation. Le patron de Tesla redoutait surtout une cour suprême qui l'empêcherait d'obtenir gain de cause et de vendre ses voitures en direct, sans passer par un revendeur comme exigé dans cet état des Grands Lacs. Suzanne Crawford est élue pour 10 ans et la majorité à la cour reste donc de 4 juges progressistes contre 3 conservateurs. De quoi redonner espoir aux démocrates pour les élections de mi-mandat l'an prochain. Le parti voit déjà dans ce scrutin local le signe qu'il pourrait renverser le Congrès et gagner du terrain au Sénat.
Sébastien Paour, correspondant de France Culture à Washington. La défense civile à Gaza fait état de 19 morts, dont 9 enfants, dans une frappe israélienne sur un bâtiment endommagé de l'ONU qui servirait d'abri à des déplacés palestiniens. L'armée israélienne, elle, affirme avoir visé des combattants du Hamas. La junte birmane annonce un cessez-le-feu temporaire dans sa lutte contre les groupes rebelles du pays. Cessez-le-feu en vigueur jusqu'au 22 avril, dont le but, explique la junte, d'accélérer les efforts de secours et de reconstruction et de maintenir la paix et la stabilité après le séisme de vendredi qui a fait près de 3000 morts. Quelles sont les origines du Covid-19? 5 ans après l'apparition du virus, la question n'est pas tout à fait tranchée. Mais dans un rapport paru aujourd'hui, l'Académie de médecine met en avant une hypothèse. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Plutôt qu'une transmission naturelle de l'animal à l'humain, l'Académie penche pour un accident de laboratoire.
Effectivement, le rapport parle d'un faisceau d'indices qui convergent vers cette hypothèse, mais il n'y a et il n'y aura sans doute jamais de certitude, dit aussi l'Académie. Alors, quels arguments plaident contre un virus qui aurait émergé naturellement? D'abord, on n'a jamais identifié de virus identique au SARS-CoV-2 dans la nature, même si les chauves-souris abritent certains coronavirus qui sont très proches. Ensuite, le pangolin a été innocenté, autrement dit, on ne connaît pas l'animal par lequel aurait transité un virus avant d'arriver à l'humain. Parallèlement, 2 arguments principaux plaident pour un virus fabriqué en laboratoire. D'abord, quand on a séquencé les premiers virus de Wuhan, ils sont apparus comme très récents, c'est-à-dire pas plus vieux que 1 à 5 mois et aussi comme très identiques les uns aux autres. Or, si le virus était né dans la nature, avait colonisé les animaux avant de passer la barrière des espèces, on se serait attendu à ce qu'il ait subi beaucoup de mutations. Deuxième argument d'ordre génétique, il y a dans le SARS-CoV-2 une toute petite séquence dite du site de clivage de la furine. Et c'est elle qui a rendu ce coronavirus particulièrement apte à s'attacher aux cellules humaines et aussi à nous infecter par aérosol, c'est-à-dire en respirant les fameuses gouttelettes. Or, la séquence dite du site de clivage de la furine n'existe pas pour l'instant. Elle est naturelle dans les autres virus que l'on a trouvés sous la famille des SARS. Et cela plaide pour une manipulation en laboratoire.
Et donc, quelles sont les préconisations de l'Académie?
Alors, l'Académie demande surtout qu'on prenne conscience que ces manipulations de virus sont très dangereuses. Il faudrait mieux surveiller même nos laboratoires en France. On ne sait apparemment pas combien il y a de laboratoires P3 chez nous. Idem aux États-Unis, par exemple, et un rapport cité par l'Académie note que de 1975 aux années 2015, un papier donc dit qu'il y a eu 2388 accidents et 42 décès à travers le monde dus à des manipulations de virus en laboratoire. L'Académie voudrait donc que la culture de la sécurité biologique soit améliorée.
Tara Schlegel. Emmanuel Macron a présidé aujourd'hui à l'Élysée un conseil de défense et de sécurité consacré à l'Iran et à ses activités nucléaires. Plutôt en Conseil des ministres, le chef de l'État a tenu à rappeler l'indépendance de l'autorité judiciaire et le fait que les magistrats doivent être protégés et ont le droit d'être respectés. Une clarification qui fait suite aux attaques contre les juges de la part du Rassemblement national depuis la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés du FN. Les tensions persistent. L'inéligibilité de Marine Le Pen s'est d'ailleurs une nouvelle fois invitée aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. L'occasion
l'occasion pour François Bayrou d'apporter des précisions sur son appréciation de ce coup de théâtre judiciaire. Le Premier ministre s'était dit troublé après la condamnation de Marine Le Pen. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Aurélie.
Et ce commentaire avait choqué une partie de la gauche.
Une partie de la gauche et notamment Stéphane Peu, le député communiste, s'indigne des violentes charges portées contre la justice depuis la condamnation de Marine Le Pen. Il dénonce la livraison des magistrats à la vindicte populaire et il s'offusque du trouble du Premier ministre.
À notre tour d'être stupéfait par votre frilosité à reconnaître cette décision rendue au nom du peuple français. Monsieur le Premier ministre, l'indépendance de l'autorité judiciaire doit plus que jamais être protégée. Sans trembler et sans tergiverser, le gouvernement peut-il d'une voix ferme donner les preuves de son respect de l'autorité judiciaire ?
François Bayrou précise sa pensée. Oui, il a bien des interrogations, mais elles portent uniquement sur l'application immédiate de la peine d'inéligibilité.
Ce sujet-là mérite interrogation. S'il y a interrogation, c'est le Parlement qui doit s'en saisir. C'est le Parlement qui l'a défini, c'est la loi. C'est en vertu de la loi que la décision a été prise. Si la loi doit être discutée, c'est au Parlement.
Et à l'autre bout de l'hémicycle, l'indignation change de cible. La députée ciotiste Brigitte Barège apporte son soutien à Marine Le Pen.
Nous avons hélas aujourd'hui la démonstration qu'il faut réformer l'exécution provisoire en matière électorale. Comme le Conseil d'État l'a suggéré le 27 décembre dernier, comme le Conseil constitutionnel qui vient de rappeler la nécessité de préserver la liberté de l'électeur.
Éric Ciotti est à l'origine d'une proposition de loi visant à supprimer l'exécution provisoire. Le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola, promet que ce texte pourra être examiné par le Sénat s'il est adopté par l'Assemblée.
Antoine Marette, Éric Zemmour est condamné à 10 000 euros d'amende pour contestation de crimes contre l'humanité. C'est une nouvelle étape d'une procédure judiciaire à rebondissement. Le président du parti d'extrême droite Reconquête avait été relaxé à deux reprises avant que la Cour de cassation n'ordonne un nouveau procès à la demande du parquet et de plusieurs associations. Dans une émission de télévision, Éric Zemmour avait déclaré que Philippe Pétain avait sauvé des juifs français et que c'était une réalité. Eh bien, à l'issue du troisième procès, les juges ont estimé que la portée de ces propos relevait bien d'un délit, même si l'ancien chef du régime de Vichy n'avait jamais été condamné pour un crime contre l'humanité. Éric Zemmour va maintenant se pourvoir en cassation. La campagne officielle pour la présidence des Républicains a démarré aujourd'hui. Le vote aura lieu dans un mois et demi, les 17 et 18 mai. Il y a deux candidats à départager, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Ce sont les adhérents à jour de cotisation qui vont pouvoir voter et les équipes des deux candidats font tout leur possible pour inciter les sympathisants à adhérer au plus vite.
Oui, chaque candidat a constitué des équipes de phoning qui, en fonction des listes dont elles disposent, appellent les anciens adhérents et les sympathisants susceptibles d'adhérer pour les inciter à prendre ou à reprendre leur carte avant le 17 avril, date limite fixée par la haute autorité en charge de l'élection, pour établir la liste de tous ceux qui pourront prendre part au scrutin. Ce sont donc des centaines, voire des milliers de coups de téléphones qui sont passés chaque jour. Et manifestement, ça marche, puisque selon un décompte réalisé ce matin, le parti revendique 78 000 adhérents à jour de cotisation, alors qu'il n'était que 43 000 en début d'année. Ça signifie que 34 000 personnes ont pris ou repris leur carte chez les Républicains au cours des dernières semaines. Il y a donc une dynamique générée par l'affrontement entre les deux prétendants, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Dynamique qui a pour première conséquence de faire rentrer de l'argent dans les caisses, avec une cotisation à 30 euros. Vous multipliez 34 000 fois 30, ça fait environ 1 million d'euros supplémentaires engrangés par le parti en quelques semaines. Maintenant, à qui profite cet afflux de nouveaux adhérents? C'est difficile à dire. Selon les présidents de fédération qui ont rallié l'un ou l'autre candidat, on vous dit que c'est plutôt en faveur de Bruno Retailleau ou plutôt en faveur de Laurent Wauquiez. Et tout ça est invérifiable. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, semble toutefois avoir le vent en poupe, si l'on en croit d'abord les sondages de popularité réalisés à l'échelle nationale. C'est aussi ce que laissent penser les ralliements engrangés ces dernières semaines. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Jean-François Copé, David Lisnard. La plupart des figures du mouvement Les Républicains ont décidé d'apporter leur soutien à Bruno Retailleau. Face à cette tendance qui se dessine, Laurent Wauquiez multiplie les déplacements et les réunions publiques et affirme que c'est ce travail de terrain auprès des militants qui lui permettra in fine de l'emporter.
Stéphane Robert, 48 nouvelles plaintes ont été déposées aujourd'hui au tribunal de Pau contre l'établissement d'enseignement catholique Notre-Dame de Bétarame. Le dossier compte désormais 200 plaintes, sachant que la quasi-totalité des faits sont prescrits. Ce matin, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences dans les établissements scolaires a auditionné Philippe Delorme, le secrétaire
général de l'enseignement catholique. Il est chargé de vérifier que les valeurs du Comité national de l'enseignement catholique sont respectées dans tous les établissements. Bonsoir Emeline Bonavent.
Bonsoir.
Les députés ont semblé satisfaits de cette audition.
Oui, parce que Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique, a montré l'évolution de son avis sur plusieurs sujets face au co-rapporteur de la commission Paul Vannier, qui l'a d'abord accusé d'avoir voulu faire de la résistance à l'application de la loi. Il est revenu sur son opposition au contrôle des internats par l'État, qu'il avait dénoncé dans une lettre en novembre, et a affirmé soutenir le nouveau programme à la vie relationnelle et sexuelle. En ce qui concerne les mesures de protection des élèves, un plan d'action est en place depuis 7 ans, mais jusqu'ici, le processus pour faire remonter les signalements n'était pas toujours clair en fonction des établissements, parce qu'il n'est pas toujours la priorité du diocèse ou de la congrégation religieuse en charge de son application. Alors pour améliorer ce système, les responsables de l'enseignement catholique se sont réunis le mois dernier et des conventions ont été signées avec les procureurs pour faciliter le traitement des affaires. Reste maintenant la question des chefs d'établissement au cœur de ce système de protection. Ce sont eux qui sont chargés de faire remonter les problèmes. Or, dans les récentes affaires, certains ont empêché la dénonciation de ces violences. Le secrétaire général assume ses dérives. On peut toujours avoir des tentations de protéger une institution plutôt que la personne, explique Philippe Delorme. Mais il affirme qu'il ne veut plus que ça se reproduise et que des sanctions seront mises en place, sans préciser lesquelles.
Le lien social se fragilise. Seuls 29% des Français l'estiment en bon état. Un recul de 7 points par rapport à 2024 selon le baromètre EBRA du lien social en France. Enquête menée en collaboration avec Ipsos et l'école d'ingénieurs Saisi. Les résultats se montrent plus rassurants au niveau local, avec au moins 65% qui ressentent un lien social encore très fort. Mais on constate chez les Français un sentiment de solitude persistant, particulièrement chez les jeunes, Elisa Savat.
Les experts parlent même d'une épidémie de solitude chez les moins de 25 ans. Plus de la moitié des jeunes interrogés déclarent se sentir régulièrement seuls. C'est plus que les autres catégories d'âge. Et cette solitude n'est pas qu'une sensation, elle est réelle et ne cesse de croître depuis plus de 15 ans. Ces dernières années, post-Covid, c'est même de manière exponentielle, selon les chiffres de la Fondation de France, confirmé par ce baromètre. Pour vous situer, en 2010, ils étaient, selon elle, 4% des jeunes à se sentir isolés. Cette année, ils sont 62%. Les chiffres sont certes moins mauvais que pendant la période Covid, mais si on compare avec ceux d'avant-crise, cela reste très préoccupant. C'est même devenu un enjeu de santé publique.
Le sentiment de solitude augmente chez les jeunes pour de multiples raisons.
Le sentiment persistant d'être fatigué depuis la crise sanitaire. Une fatigue physique qui donne moins l'envie de sortir de chez soi. La précarité qui empêche de faire des activités et donc de rencontrer du monde. Ou encore les réseaux sociaux qui donnent une fausse impression de lien social car on ne se rencontre jamais. Un lien social abîmé donc. Les interactions avec les voisins, des amis ou des collègues ne sont pas acquises par tout le monde. Point positif de ce baromètre tout de même, les Français se sentent majoritairement bien à l'échelle locale. C'est la consécration de la proximité avec le sentiment du « ici, il fait bon vivre » car le lien social évolue avec la capacité à maintenir des associations, des commerces ou encore des clubs sportifs.
Merci Elisa. L'Opéra de Paris lève le voile sur sa saison 2025-2026. 28 spectacles seront proposés, 17 opéras et 11 ballets. La présentation de la saison a été aussi l'occasion de rappeler les défis auxquels est confronté l'Opéra de Paris. Problèmes de financement, climat social parfois tendu, travaux qui se prolongent. On fait le point avec vous, Louis-Valentin Lopez.
Au programme de la saison, deux volets du Ring de Wagner, Aïda, scénographié par l'iranienne Shirin Necha, ou encore Eugène Onegin, mise en scène par l'acteur britannique Ralph Fiennes.
Pour moi, c'est vraiment une saison de découverte, avec plein d'éléments nouveaux.
Des nouveautés qui coûtent cher, ça tombe bien, l'Opéra de Paris est légèrement bénéficiaire. Le fruit d'ajustements, explique Alexander Neff, son directeur.
Nous sommes dans une réalité économique où nous dépendons à 57% de nos ressources propres. C'est pas seulement les recettes à la billetterie, c'est le mécénat. Le mécénat a beaucoup augmenté depuis la fin de la pandémie. C'est les visites du Palais Garnier. On a beaucoup travaillé sur la diversification de nos recettes.
Côté ballet, il s'agit de la toute première saison pensée entièrement par le nouveau directeur de la danse, José Martinez. Dans un climat particulier, les danseurs ont fait grève plusieurs fois pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail.
Nous continuons le dialogue avec les représentants et avec les danseurs. Et je pense qu'on est en train de trouver un équilibre, qu'on est en train d'arriver à mettre en place un système de travail qui va être être bénéfique pour tout le monde.
Il y a enfin de grands travaux de rénovation confirmés ce matin par Alexander Neff.
Un grand projet de travaux pour les deux théâtres, le Palais Garnier comme l'Opéra Bastille, qui vont nous amener à fermer d'abord le Palais Garnier pour 2 ans à partir de l'été 2027. Une fermeture de 2 ans de Bastille qui va intervenir plus tard.
Comment assurer la continuité? Le directeur nous confie être en discussion avec d'autres maisons parisiennes, le Théâtre des Champs-Élysées, du Châtelet et l'Opéra Comique, pour héberger des représentations.
Le ciel sera très nuageux demain dans l'ouest avec des passages pluvieux. Sur le centre, le ciel sera plus lumineux et il fera beau à l'est. Les températures seront en hausse de 7 à 11 degrés au petit matin, de 13 à 21 l'après-midi.